France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre connaissance des réalités, tendent à la domination partout où leur force prévale. Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi, et nous ne sommes pas non plus les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous, elle subsistera à jamais après nous. Nous en profitons, convaincus que vous, à notre place, ne vous comporteriez pas autrement. Rapporté par le chroniqueur Thucydide au livre 5 de son histoire de la guerre du Péloponnèse qui s'est tenue au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce discours est celui tenu par les Athéniens impérialistes aux habitants de la petite île de Mélos qui doivent soit leur céder, soit résister ou mourir. Et bien sûr, comment ne pas y penser devant ce qui s'est exprimé à la Maison-Blanche vendredi soir en direct devant les caméras de télévision du monde entier, dans l'opposition entre le président ukrainien Zelensky d'un côté et Donald Trump et son vice-président Vance de l'autre, dans une séquence d'une incroyable puissance dramatique plus proche d'un film de gangster façon Scorsese que de la diplomatie. Cette séquence est un signe des temps. Que dit-elle sur ces acteurs d'une part, sur la révolution politique en cours aux États-Unis d'autre part, et enfin sur les nouveaux rapports de pouvoir qui définissent notre siècle? On va essayer de faire le point sur tout ça avec, pour en parler, Valérie Kokoschka. Bonjour.
Bonjour, merci vous êtes, de votre invitation.
Merci à vous d'être là. Vous êtes docteur en philosophie, maître en management des institutions de soins et de santé universitaire, et vous avez participé au numéro de la revue Cité Sauver la démocratie, publié l'année dernière. Régis Jean. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes journaliste pour Radio France, pour Le Figaro et pour entre autres. Vous êtes installé à Tbilissi, vous nous parlez, et vous avez écrit cet automne Notre homme à Washington aux éditions Grasset, une enquête sur les liens entre Donald Trump et la Russie. Anne-Elisabeth Moutet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à The Telegraph, commentatrice notamment du monde politique américain que vous connaissez très bien. Et enfin Françoise Thom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, soviétologue française, maître de conférences honoraires en histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne, et vous êtes spécialiste de la Russie post-communiste sur laquelle vous avez écrit nombre de livres et également d'articles sur qu'on peut suivre sur votre site Desk Russie, je crois. Alors d'abord, sur cette vidéo, on va commencer par là. C'est aujourd'hui une vidéo, mais c'est une séquence qu'on a vécue en direct pour ceux qui avaient leur télé allumée vendredi soir. Valérie Kokoschka, d'abord, sur la dynamique, sur les discours, sur la confrontation.
Oui, je crois que ce qui est frappant quand on écoute toute la vidéo, c'est d'abord une forme de décalage entre ce qui semble être les objectifs de Donald Trump, arrivant d'une certaine façon avec une forme de Pax America, quasi prête à signer, et où il, d'une certaine façon, il se met en scène de cette nouvelle paix. Et de l'autre côté, un Zelensky qui va passer par trois étapes qui sont des étapes très connues finalement de l'analyse de la guerre. La première, c'est de rappeler les raisons, les motivations de la guerre et d'une guerre qui est une guerre déclenchée par Poutine, c'est le fameux Ius ad bello. Puis il va parler des crimes de guerre qui sont commis, notamment en présentant les différentes photographies des soldats, des enfants, pour manifester finalement le caractère totalement arbitraire, dur, brutal de cette invasion. Et puis un troisième ton qui va être celui du Ius post-bellum, qui est en principe la manière juste de sortir d'une guerre, en insistant tout au long sur des garanties qui doivent être des garanties sérieuses. Et je pense que toute l'histoire de l'Ukraine, en tout cas l'histoire récente, montre que ces garanties sérieuses n'ont pas été données et ou suivies. Je pense notamment au mémorandum de Budapest, sans jamais obtenir finalement une réponse qui soit claire, qui soit nette. Voilà, pour le moment, je dirais,
Ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression, pendant, quand on regarde la vidéo en entier, qui est très intéressante à regarder dans sa totalité, on a l'impression de gens qui, dès le départ, ne se comprennent pas, en fait, qui ne parlent pas exactement de la même chose. Il y a des erreurs qui sont faites dès le début, qui est l'absence de traducteur est une erreur de base, qui ne, d'une part. Et puis, le Zelensky fait se présente plus comme un chef de guerre que comme enfin c'est la position de Zelensky elle est pas exactement la même que celle de Trump et de Vance dans la disposition même des discours Elisabeth Moutet.
Alors oui, tout à fait. Je suis un peu revenue tout de même de cette impression. Beaucoup de gens ont dit, surtout aux États-Unis plus qu'en France, que Zelensky n'était pas préparé à la réunion qui s'est en réalité produite. Je suis pas sûre que c'était possible de se préparer entièrement, si ce n'est que le caractère de Trump et Vance non seulement c'est très particulier, mais c'est peut-être la première fois que Zelensky est reçu à l'étranger dans une enceinte où il n'est pas mal où il n'est pas bien reçu. Mm-hmm. Il a rendu visite à beaucoup de pays en Europe. Il est allé dans d'autres cénacles en Amérique, etc. Mais il est allé aux Nations Unies. Il n'a jamais été aussi mal reçu. Et d'abord aussi mal reçu aussi parce que ce qui précède cette visite de Zelensky, c'est évidemment cette façon dont Trump s'empare de l'idée que on peut résoudre cette guerre, on peut arrêter cette guerre tout de suite. Il suffit de discuter avec Poutine et qu'il y a déjà un lourd contentieux dans la mesure où il y a eu des discussions entre Poutine et Trump et entre Marco Rubio et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe à Riyad, et que tout ça n'a pas inclus les Ukrainiens. Alors déjà, c'est quelque chose qui est extraordinairement choquant pour les Ukrainiens. Mmh, ils deviennent un objet de discussion et un enjeu et rien par rapport à ce qui se passe. Sur la description de la guerre, évidemment qu'il avait tout de même raison de le faire. Le problème, c'est que tout ça est fait en public avec un plan assez clair qui consiste à pour chacun à montrer ce qu'il a à faire, mais que Trump il est en train de parler à son électorat directement. Zelensky chez lui, les Américains ont déjà expliqué que Trump a dit, il a maintenant nié qu'il l'avait dit, mais il vit dans un monde différent, il a dit récemment c'est un dictateur puisqu'il n'y a pas d'élection chez lui. Rappelons que la constitution ukrainienne ne dit qu'on ne tient pas d'élection pendant une guerre, parce que un certain nombre des gens qui pourraient aller voter n'ont pas envie d'aller voter et qui leur tombe une bombe sur la figure, et d'autre part qu'une bonne partie de la population ukrainienne est en ce moment occupée par les Russes. Donc, tout à fait logique que ce serait pas une élection légitime, puisque ce serait pas des bonnes conditions. Il y a rien de dictatorial à ça. Alors, au moment où Trump demandait les élections en Ukraine, les différents candidats potentiels et présumés aux élections ukrainiennes, c'est-à-dire le général Valéry Zaloujny, qui était le commandant en chef des forces ukrainiennes et qui est que Zelensky a fini par retirer du terrain et envoyer un petit peu en exil comme ambassadeur en Grande-Bretagne. Petr Poroshenko, le président précédent que Zelensky allait presque mettre en résidence surveillée au moment où la guerre a commencé, et un troisième candidat, ils ont tous dit, écoutez, c'est pas le moment de tenir des élections, donc en gros, c'est nous ne nous présenterons pas et il sera réélu, Zelensky sera automatiquement réélu. C'est pas des choses qui font plaisir à Trump.
Pour revenir à la vidéo, il y a le fait que Zelensky se trouve en décalage, c'est-à-dire qu'il est mal placé dès le départ. S'il y a un passif, il y a des choses qui ont été dites sur lui par les deux précédents. Lui-même s'est pas embarrassé d'un traducteur. L'anglais de Trump est déjà pas si facile à comprendre que ça, pour des raisons, la manière dont il parle, d'une part. Et Zelensky s'exprime à moitié en anglais, à moitié en globish, quoi, en quelque sorte. Donc ça crée un premier problème.
Alors le problème de Zelensky, qui parle un anglais avec lequel on peut travailler, mais qui n'est certainement pas un anglais de diplomatie, parce qu'il faut comprendre absolument tout ce qu'il y a comme contexte culturel à travers tous les mots. Ça, c'est une erreur, mais moi, je pense que quelqu'un qui parle mieux anglais que Zelensky, le président Macron, devrait aussi aller avec un traducteur, pendant ces discussions, parce qu'il ne comprend pas les concepts culturels qui sont derrière.
On voit la conférence qui se déroule à peu près cordialement pendant 40 minutes, et puis tout dérape quand Vance dit que ils vont utiliser la diplomatie pour parler avec Poutine et que Zelensky demande qu'est-ce que c'est la démocratie dans la mesure où on ne peut pas croire à Poutine.
C'est la diplomatie.
C'est la diplomatie. Mmh. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, la diplomatie. On ne peut pas croire à Poutine qui signe des traités qu'il ne respecte pas. Et à ce moment-là, Vance considère que la diplomatie même, l'idée même de diplomatie de Trump est remise en cause et il intervient pour dire qu'il y a un manque de respect et puis les choses se mettent à déraper à partir de là.
Et la notion de « vous ne me montrez pas de respect » est une chose quasiment mafieuse, on a déjà prononcé le mot, mais c'est tout de même quelque chose de terrifiant. Et toute l'idée consiste à dire « vous vous comportez mal comme un enfant, vous êtes un délinquant ». Et ensuite, ça dégénère d'une manière, c'est très très vite.
Effectivement, Trump et Vance parlent autant à leurs électeurs qu'il y a un aspect qui est rarement souligné, c'est que tous les deux, Zelensky et Trump, viennent de la télévision. Oui. Ils sont tous les deux, c'est tous les deux des hommes de télévision. Oui. Donc ils sont habitués jusqu'à un certain point au clash en direct. Il y a cet aspect des choses. Et on n'arrive pas à savoir quand on regarde les vidéos, dans quelle mesure il y a piège, dans quelle mesure c'est une discussion qui dérape complètement. François Stomme, qu'est-ce que vous pensez de cette, est-ce qu'à votre avis il y a piège? Est-ce qu'il y a, dans la logique, mise en place par Trump et Vance, quelque chose, de l'ordre du traquenard?
Oui, il y a, c'est tout à fait clair, à mon avis, qu'il s'agissait bien d'un traquenard. Zelensky pouvait difficilement rester impavide devant les remarques, surtout celles de Vance, hein, des remarques d'une extrême bassesse, hein, et celles de Trump aussi, d'ailleurs, lui disant qu'il est en position de faiblesse et qu'il n'a qu'à s'écraser. En gros, c'est ce que lui a dit Trump. Donc, on ne voit pas comment quelqu'un qui a vécu toutes les épreuves qu'a vécu Zelensky entendre cela et ne pas réagir. Et quant à Trump et Vance, ils sont enivrés par le sentiment de leur toute-puissance et ils n'ont évidemment aucune empathie et ils ne pensent qu'à écraser leur interlocuteur. Et je dirais que ils s'adressaient peut-être à leur public, mais ils s'adressaient aussi à Poutine. Hein. C'est un signal très clair à Poutine, un appel de pied à Poutine de la part de ce duo. Ils faisaient un peu... Leur idée, c'était un peu d'organiser l'assassinat politique de Zelensky pour faire plaisir à Poutine. C'est comme ça que je vois la chose.
Ah oui.
C'est une opération. Je serais pas étonnée que l'opération même que le mécanisme qui a mis en marche tout cela provienne de Moscou. Ça m'a rappelé, moi en écoutant les échanges, j'avais le sentiment d'être devant une émission de Solovyov, Vladimir Solovyov, il y avait beaucoup d'émissions avant 2022 où on avait un malheureux Ukrainien sur le plateau et toute une bande d'experts, d'une meute d'experts russes qui se jetaient sur lui et lui disaient on va vous anéantir, on va vous écraser, etc. Mm-hmm. C'était un peu ça. C'était très poutinien comme atmosphère. Et ce qui m'a personnellement frappé, c'est l'ignominie de ce comportement, et cette ignominie, elle était russe. Hein. C'est la contagion du poutinisme aux États-Unis qui est ça. Si on se pose la question de la proximité entre Trump et Poutine, il faut écouter son langage. Il a un langage poutinien. Mmh. Il est exactement sur la même longueur d'onde. On voit qu'il est imbibé de cette propagande russe et souvent c'est indiscernable. indiscernable. Il réécrit l'histoire, il prétend que les Ukrainiens sont coupables de la guerre, sont responsables de la guerre, etc. C'est vraiment la propagande du Kremlin.
Alors, vous avez écrit, Françoise Thom, un livre sur le langage de Poutine et le langage des prisons, le langage de la pègre, en fait, qui est devenu le langage officiel, pratiquement, du poutinisme. Et toute la question est de savoir dans quelle mesure... On parle beaucoup de la Russie à propos de Trump aujourd'hui, et une des grandes questions est de savoir dans quelle mesure il s'agit pratiquement d'une coïncidence biographique ou d'une opération russe. On sait que toute la famille de Trump a été elle-même liée à la mafia américaine dès le grand-père, Frédéric Trump, qui travaillait avec le crime organisé, qui avait des bordels au 19e siècle. Le père, Fred, était proche de Lucky Luciano, et il est notoire que Donald Trump lui-même a commencé à travers Roy Cohn, qui était non seulement l'avocat de McCarthy, mais aussi un homme de Meyer Lansky, l'ancien bras droit de Capone, et que Cohn l'a mis en contact avec la mafia italienne, comme des gens comme Fat Tony Salerno ou la famille Genovese, et qui s'est ensuite, à partir des années 80, du milieu des années 80, Trump s'est plutôt dirigé vers la mafia russe ou les milieux proches de la mafia russe à New York. Régis Janté, dans votre livre Notre homme à Washington, vous défendez une thèse assez subtile, plus subtile que ce qu'on dit d'habitude sur la question de savoir si Trump est un agent ou non du régime poutinien et s'il a été recruté par le KGB. Votre hypothèse est plus subtile que ça.
Disons qu'effectivement, c'est l'impression que c'est la conjonction de deux choses. D'un côté, effectivement, un Trump qui n'est pas un agent, c'est même des gens que j'ai pu rencontrer aux États-Unis ou à qui j'ai pu parler de ce qu'on appelle la communauté des renseignements, quoi, des services de sécurité et de renseignement, disent que c'est pas un agent. Et ils tiennent ça parfois même aussi d'ailleurs de leurs contacts en Russie, mais que c'est ce qu'on appelle un contact confidentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas payé, qui n'est pas officiellement déclaré comme agent, mais qu'on cultive au fil des ans, en lui faisant rencontrer des gens, en faisant circuler de l'argent à travers ses réseaux et des choses comme ça. Et on le fait parce que justement, c'est l'autre versant que je voulais souligner, c'est aussi qu'on pourrait dire que l'ADN politique propre à Trump fait aussi qu'il est tout à fait ouvert à ça. C'est ce que vous soulignez il y a quelques minutes, par exemple, en disant que, bon, il avait fricoté avec la mafia italo-américaine. Eh bien, effectivement, lorsque la mafia rouge soviétique a débarqué à Brighton Beach à New York, ça l'a pas gêné évidemment de travailler avec eux. Et ça, c'est pas forcément parce qu'il y avait des liens, c'était parce qu'ils étaient là, parce qu'ils pouvaient travailler de la même manière. Quand on voit comment Trump travaillait avant tout ça, s'il faut offrir une prostituée à un élu pour obtenir un terrain, on le fait. S'il faut offrir un appartement gratuit à un journaliste qui est trop critique, on le fait, en espérant qu'il se taira ensuite, etc. C'est vraiment ce genre de méthode, quoi. Donc on a un Trump, voilà, c'est ça. À la fois qui, par son ADN, se trouve attiré vers ce monde russe, ensuite politiquement, parce que c'est le règne de la puissance, c'est aussi qu'ils ont le même adversaire, les démocrates libéraux, qu'avec M. Poutine aujourd'hui, par exemple. Et de l'autre côté, voilà aussi quelqu'un qui a été travaillé au fil des ans, ce qui crée des liens, et il n'y a pas de compromat sexuel ou autre, je crois que c'est pas la question, c'est davantage des compromats sur de l'argent qui a circulé, des services qu'on s'est rendus au fil des ans, à travers des mafieux qui ont investi dans ces projets immobiliers ou dans ces casinos, qui ont blanchi de l'argent dans ces casinos, par exemple.
Et vous dites que les financements sont passés à partir des années, vers la fin des années 80, à partir des années 90, surtout par la Deutsche Bank, qui était une banque, en fait, contrôlée par une banque proche de Poutine, c'est ça, hein. Et que au moment où il est arrivé à la Maison Blanche en 2016, Trump avait une dette de l'ordre de plusieurs milliards donc de dollars vis-à-vis de la Deutsche Bank.
Centaines de millions plutôt.
Des centaines de millions.
Oui, mais je ne sais plus exactement, mais effectivement, alors ça, c'est exactement l'illustration de ce que c'est que cultiver un contact confidentiel par des services. On sait que c'est l'expression qu'utilisait dans les années 80 le chef de la première direction du KGB, très importante, qui a fait tout un effort de recrutement, et on a les documents du KGB de l'époque. Donc on voit comment ça s'est passé. On n'a pas le nom de Trump, on n'a aucun nom. C'est des documents un peu théoriques sur le plan, comment est-ce qu'on va recruter de nouveaux agents chez l'ennemi principal, comme on disait, c'est-à-dire les États-Unis. Mais on on voit que Trump, effectivement, entre tout à fait dans le radar, et c'est ce qui va amener d'ailleurs à son premier voyage à Moscou en juillet 1987, qu'il a, on a beaucoup de détails sur la façon dont il était organisé, et c'est clairement une opération du KGB à l'époque pour le courtiser. Mm-hmm. La Deutsche Bank, ça fait partie de cette culture, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est à la fois, il y a la propre dynamique de la banque qui sombre dans le capitalisme financier effréné et qui, du coup, ne va pas être non plus regardante d'où vient l'argent et qui va de plus en plus entretenir des liens de plus en plus importants avec la Russie et notamment cette banque, la VTB, dirigée par M. Kostin, qui est quelqu'un de proche de M. Poutine. Et effectivement, on voit bien son fils même travaillait pour la Deutsche Bank, par exemple, et qui va effectivement beaucoup aider Trump pendant toutes ces années.
Alors, toute cette dynamique aboutit à la mise en place d'une logique des relations internationales, des relations humaines, des relations internationales extrêmement brutales. Et en même temps, on a l'impression que c'est la compréhension des rapports de force dont parle tout le temps Trump, c'est surtout une compréhension des rapports de force qui consiste à taper sur le plus faible en se mettant plutôt en cultivant des bons rapports avec les plus forts. Valérie Kokoschka, c'est votre tweet sur la guerre du Péloponnèse en fait qui m'a donné l'idée de cette émission.
Oui, tout à fait, mais en fait c'est assez intéressant de revenir à Thucydide, d'abord parce que on le sait peu, mais il a beaucoup été mobilisé pour analyser ce conflit, notamment à partir de ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, qui est finalement l'idée d'une forme de cercle vicieux de la puissance qui veut se démontrer et s'attester, et elle s'atteste d'abord en frappant sur le plus faible. Et puis, on ne sait pas, on le sait peu aussi, les néoconservateurs américains se sont épris d'Hatton et de Thucydide dans les années 90, notamment via Kogan, père et fils, pour repenser leur propre rapport à leur propre pouvoir. Et pour, d'une certaine façon, passer de ce qui était une forme de leadership et de multilatéralisme, employant plutôt un soft power, à quelque chose qui va de plus en plus vers l'hégémonie, puis la domination. Et dans ce cadre-là, il y a eu un intérêt très fort pour ce fameux dialogue aux médias, qui est un des grands prototypes de notre culture, du rapport entre force et droit.
Que je citais tout à l'heure.
Exactement, que vous citiez en entrée. Et c'est important de rappeler peut-être que Thucydide connaît à la fois l'apogée de la démocratie athénienne, mais aussi sa chute. Et c'est une chute qui est, selon lui, totalement redevable de, non pas la décadence de la démocratie athénienne, mais bien de la négation de ses principes, à commencer par la négation de la démocratie comme ce qui institue l'égalité entre les individus par le droit. Littéralement, c'est ce qu'il va montrer. Et quand on lit cette fameuse lettre, ce fameux dialogue des Méliens, ce qu'on voit, c'est que les Méliens auxquels Hatton demande de se soumettre contre un tribut qui ressemble quand même assez fort à ce qui est demandé aujourd'hui par Trump sans aucune garantie, ce qui est aussi la position des Athéniens face aux Méliens, vont essayer de faire valoir d'abord la justice. Et ce qu'il aurait répondu est aussi ce qu'on a entendu dans le fameux dialogue entre guillemets entre Vance, Trump et Zelensky, à savoir que la justice n'intervient qu'en présence de forces égales. Et dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir et les faibles cèdent. Qui est la négation même, je dirais, de l'idée de démocratie, mais avec elle aussi, du droit international et d'un rapport à ses partenaires alliés contemporains.
Alors ce que dit Thucydide, c'est que ce recours à la force et à l'impérialisme finira par causer la perte d'Athènes. Anne-Elisabeth Moutet, on parlait des néoconservateurs, mais en fait les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir à la Maison Blanche ne sont pas des néoconservateurs. C'est tout à fait autre chose en réalité.
Ils sont même opposés depuis le départ par les néoconservateurs, les gens autour de Bill Kristol, de Commentary John Podhoretz, etc. C'est-à-dire tous les gens gens qui ont créé le mouvement néoconservateur dans les années 70-80 sont des gens qui, dès le départ, ont été ce qu'on appelle des Never Trumpers, à tel point que, par exemple, la famille Bush, qui a été entourée de néoconservateurs, avait organisé, lors de la campagne de Hillary Clinton en 2016, des événements pour lever des fonds pour sa campagne. Et que c'est une haine implacable, parce que ils sont pas aussi cyniques que le dialogue homélien, tout de même. Il n'y a pas que Léo Strauss dans la vie. Et vraiment, ils considéraient qu'il y avait des atteintes qui étaient faites à la démocratie par une présidence Trump, évidemment, une présidence bis. Mais autour de Donald Trump, il y a d'abord la chose la plus importante, il y a des opportunistes. Et l'opportuniste en chef, c'est J.D. Vance. Et J.D. Vance, c'est le vice-président. On le sait, il est devenu célèbre parce qu'il a écrit un livre tout à fait remarquable sur sa famille, qui sont des blancs pauvres dans les Appalaches.
Oui, il a été aidé par une mère célibataire.
Des gens qui prennent de la drogue, enfin, etc. C'est sa mère.
White trash.
Et qui était là à l'inauguration, ça c'était quelque chose de bien. Il s'enliste dans l'armée pour la raison évidente que c'est l'armée qui vous donne ensuite de quoi payer vos études qui sont très chères aux États-Unis. C'est ça, l'hérité du GI Bill pour les combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait des très bonnes études à Yale. Il devient il est dans les venture capitalisme ensuite dans Silicon Valley où ça lui fait d'autres liens, d'autres networks. Et puis Trump le choisit parce qu'il représente à la fois l'électorat pauvre et qui a l'impression que personne s'occupe de lui, qui a fait une bonne partie de l'élection de Trump, mais aussi parce qu'il représente une réussite à l'américaine. Et Vance, qui est quelqu'un d'intelligent, qui était un Never Trumper avant et qui est devenu pro-Trump, il est devenu Gollum, vous savez, l'espèce de créature qui vole l'anneau dans le Seigneur des Anneaux et qui se transforme lentement en espèce de monstre. Et il est fasciné par le fait qu'il pourrait vraiment devenir président. Il a plus de pouvoir, je crois, que n'importe quel vice-président des États-Unis, y compris Dick Cheney il y a 30 ans. Et donc, il devient cette espèce de personnage brutal qu'il n'a pas toujours été. Ça, c'est une transformation terrifiante.
François Stone, sur la question de cette culture de la loi du plus fort, vous avez écrit beaucoup de choses sur votre site. Vous pouvez me rappeler le nom du site Descrucy. Vous citez Thucydide ou pas seulement, vous citez Salluste et la conjuration de Catilina à Rome, qui est témoin du naufrage de la République romaine, et vous écrivez quand les Romains avaient tout ce que les mortels peuvent souhaiter, vous citez Salluste, la paix et les richesses, il se trouva pourtant des citoyens pour travailler obstinément à leur perte et à celle de la République. Vous citez également les grands patrons du numérique aujourd'hui qui prônent la logique du plus fort contre les plus faibles et qui sont en quelque sorte les nouveaux oligarques exactement comme chez les Russes.
Oui, je crois qu'il y a une conjonction entre un mouvement populiste et ce phénomène des oligarques. Et c'est ça qui est à l'origine de la victoire du trumpisme. Mais le point essentiel, à mon avis, dans le phénomène trumpien et sa convergence avec le poutinisme, c'est le refus de la loi, justement. C'est l'idée que tout est permis, que le plus fort peut tout se permettre, et qu'on écrase le faible et qu'on est servile à l'égard du puissant. On le voit très bien à la cour de Trump. Il est entouré de gens serviles qui sont arrogants avec ceux qu'ils considèrent comme faibles et rampent devant les forts.
Il y a une sorte de parallèle entre le libertarien et le refus pur et simple de toute loi, quoi.
Voilà, parce que l'État est considéré comme le dépositaire de la loi. Donc ces gens-là sont forcément portés à démonter l'État, ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Ils sont en train de remplacer les institutions de l'État par une verticale du pouvoir à la Poutine.
Ce que vous dites dans votre article, c'est que, enfin, vous remontez à la fin de la guerre froide et vous dites qu'après l'effondrement de l'URSS, les dirigeants américains n'ont pas seulement cru à la fin de l'histoire, ils ont cru à la fin de la politique, que les dirigeants démocrates s'imaginaient que leur rôle consistait à apporter de légers correctifs à la dynamique créatrice des marchés. Ils se sont investis dans le sociétal, dans la défense des groupes minoritaires, en s'aliénant une grande partie du peuple américain, et qui ont, en gros, l'idée même d'homme d'État a fini par disparaître, et que c'est sur ce fond-là que des gens comme Trump ont pu émerger.
Oui, c'est une espèce de retour, de revanche du politique.
Oui.
Effectivement.
Une revanche.
Une politique qui avait été négligée dans l'euphorie de la fin de la guerre froide. Et c'est l'erreur qui a été commise par les Occidentaux face à la Russie. C'est qu'on a négligé le développement des institutions au profit du développement du marché. On a cru que si le marché s'installait, les institutions démocratiques suivraient automatiquement. Mmh. Et c'était pas le cas, parce qu'on a eu cette dérive mafieuse, justement parce que l'état de droit n'a pas été mis en place.
Ce que dit Salluste,
c'est l'erreur qu'on a fait en Occident.
Ce que dit Salluste à propos de Rome, il cite d'abord la soif de l'argent qui s'accroît, puis celle du pouvoir. Il écrit: ce fut là, pour ainsi dire, l'aliment de tous les maux. La cupidité détruisit la loyauté, la probité et toutes les autres vertus. Anne-Elisabeth Moutet, si vous...
Je ne pense pas qu'il y ait une destruction des institutions américaines, parce que d'abord elles sont extrêmement fortes.
Oui.
Et je pense que le droit continue à prévaloir aux États-Unis, ne serait-ce que parce que le droit est nécessaire dans un pays qui est lui-même fait entièrement d'immigrants, ou presque entièrement, 98% d'immigrants. Et donc ces gens qui viennent de traditions différentes avec une seule chose en commun, c'est qu'ils viennent aux États-Unis de leur propre volonté, sauf les esclaves noirs, et qui construisent une société entre eux. Il faut une armature légale très importante, puisque c'est ce qu'on a comme base. Et voilà pourquoi les Américains ont pour leur Constitution une vénération qui n'a rien à voir avec notre rapport avec la Constitution, d'une part. Et d'autre part, je suis moins pessimiste, parce que si on prend par exemple les nominations de Donald Trump à la Cour suprême lors de son premier mandat, il nomme trois magistrats extraordinairement respectés. Et ces magistrats l'ont contredit dans un certain nombre de points. Il avait l'impression effectivement que il avait un lapin et le lapin mordait. Je crois malgré tout que les contre-pouvoirs américains sont plus solides qu'on ne le pense. Il y a plus dans la question de l'information et du quatrième pouvoir, là il y a vraiment un vrai problème. Mais sur la capacité des juges américains et même de, je dirais, du système américain, des chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, il y a une capacité de résistance qui, à mon avis, est beaucoup plus grande.
Et donc, vous êtes plutôt relativement... Enfin, en tout cas, mais on va quand même vers un conflit entre l'armature constitutionnelle américaine et le pouvoir actuel. On va vers ça, quand même.
Forcément, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir comme il s'est passé dans toute la campagne électorale, où simultanément Trump était mené en justice pour des actions qui aboutissaient en justice. Mais je pense que toucher à des points essentiels de la démocratie américaine, le Sénat, qui a en ce moment une majorité pas très grande républicaine, refusera, une partie du Sénat refusera, une partie de la Chambre refusera.
Régis Janté, à votre avis, ce qui vient de cette séquence, est-ce qu'elle est une victoire tactique de la Russie? Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça?
Oui, absolument, parce que c'était un des fondamentaux de la politique de russe, et notamment de M. Poutine, mais pas seulement, c'est d'avoir conscience que la Russie est faible. Vous savez, vous vous souvenez de ce fameux livre de Georges Sokolov, la puissance pauvre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que le comportement géopolitique de la Russie, a fortiori sous Poutine, c'est de se dire, bien, on a des faiblesses, on va essayer de les compenser, notamment sur le terrain politique, à travers un certain nombre de stratégies qui consistent souvent à exagérer sa force, à bluffer sur la force de la Russie, alors qu'en termes économiques, par exemple, c'est la 9e puissance en termes de PIB, je crois. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et là, effectivement, en imposant en quelque sorte via Trump ce débat, ce tête-à-tête entre Moscou et Washington, on a l'impression que c'est les deux seules grandes puissances du monde qui décident de tout. Et ça, c'est vraiment un vrai succès. Et ça conduit aussi et surtout au fait que les États-Unis, par exemple, de M. Trump, ne demandent rien finalement aux Russes dans cette négociation qui semble commencer. Il n'y a rien de demandé. C'est même la partie russe qui, elle, elle essaie d'imaginer des demandes de la part des États-Unis en proposant, par exemple, des terres rares ou bien de faire des entreprises, des co-entreprises pour forer dans l'Arctique pour le pétrole et le gaz dans l'Arctique russe, quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment très important parce que là, il y a une victoire complète de Poutine. Et on a plein d'indices qui nous montrent que c'est comme ça, effectivement, que les choses se trament. Par exemple, un ancien du Conseil de sécurité, McMaster, révélait dans un livre récemment que, par exemple, Poutine a dit à Trump, mais tu sais, toi, tu as la doctrine Monroe, donc cette doctrine des sphères d'influence, vue par Theodore Roosevelt, que M. Trump semble admirer beaucoup. Donc, Theodore Roosevelt, c'est la mise en œuvre, on va dire, de la doctrine Monroe au début du XXe siècle, en version assez impérialiste, quoi. Et il dit, ben voilà, toi, c'est tout à fait logique, c'est le monde doit marcher comme ça. Moi, je veux simplement ma doctrine Monroe pour l'ancien espace soviétique, quoi. Donc là, c'est des vraies illustrations de comment Poutine vient travailler au corps, si j'ose dire, l'esprit de M. Trump pour le faire plier dans son sens et obtenir, eh bien, peut-être une négociation qui sera toute à la faveur de la Russie, alors qu'on sait que la Russie est plutôt mal en point.
Ça se passe pas bien. Tout à fait. Alors, avant de donner la parole à Valérie Kokoschka, François Stomme, juste un point. Dans un de vos articles, vous dites que depuis l'été 45, en fait, on assiste à le énième épisode d'un conflit qui a commencé bien avant, puisque vous dites, depuis l'été 45, les dirigeants du Kremlin veulent chasser les Américains d'Europe pour avoir la haute main sur le continent. Et vous citez le journaliste... Pardon ?
Depuis 1949, bien sûr. Depuis la création de l'OTAN.
Bien
en 1945, ils avaient l'espoir que les Américains partent, parce que Roosevelt avait promis à Staline que les troupes américaines quitteraient l'Europe dans les 6 mois après la fin de la guerre.
Voilà.
Donc,
vous citez le journaliste Maxime Shevchenko, qui commentait sur la radio Echo Moskvi l'inauguration de Trump en 2017. Je vais le citer. Je veux que ces 4 années, donc le premier mandat de Trump, voit un raz-de-marée de la confrontation politique aux États-Unis. Je veux qu'au Vermont, de nouveaux confédérés et des militants populaires se soulèvent contre le pouvoir fédéral, que les Afro-Américains de Ferguson se souviennent des policiers blancs qui ont tué les leurs. Voilà pourquoi l'arrivée au pouvoir de Trump m'inspire beaucoup d'espoir. Tous contre tous, voilà mon scénario pour l'Amérique. Et vous dites que les hommes du Kremlin se sont employés à diffuser le message consistant à rendre les États-Unis aussi haïssables que possible dans le monde entier et à inciter les Américains à démanteler eux-mêmes leur État. Donc c'est une stratégie qui a été délibérément mise en place. C'est votre thèse.
Oui, c'est la stratégie du chaos qui est la stratégie générale de Poutine. C'est semer le chaos parce que dans une situation chaotique, justement, il n'y a pas de loi.
Oui.
C'est toujours le refus de la loi qui est à la base. Et donc, et c'était le moyen dans leur esprit de détruire les États-Unis. Et le projet de destruction des États-Unis, il est, je dirais, c'est une obsession au sein du KGB depuis la fin de l'URSS, qui a été perçue comme une défaite. Et donc, l'idée, c'est de renvoyer l'ascenseur aux États-Unis et de provoquer l'éclatement des États-Unis et d'anéantir la démocratie libérale aux États-Unis. Donc ça, c'est un projet qui nourrit depuis des années, auquel le KGB et ses successeurs ont travaillé avec persévérance.
Et qui trouve aux États-Unis des relais. Hein. Je pense à des gens comme Steve Bannon ou Tucker Carlson. Steve Bannon qui s'est comparé à Lénine et qui a ouvertement expliqué qu'il voulait détruire l'État. Valérie Kokoschka, sur cette...
Je crois qu'en fait, c'est effectivement un mouvement qui vient d'assez loin et c'est important de rappeler aussi précisément ce rôle des oligarques de la tech, parce que c'est peut-être un des éléments qu'on a peu mentionné, et notamment dans le déplacement d'un certain nombre de frontières, je dirais. On sait que Zuckerberg, notamment, voulait abolir la vie privée. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'Elon Musk entend reformater la vie publique. Ça n'est pas rien, c'est effectivement l'idée du contre-pouvoir. Ce que je crois qui est important peut-être dans ce qu'on voit ici, c'est qu'on retrouve finalement dans cette forme de coopération entre les Russes et les Américains, ou en tout cas d'amitié idéologique, c'est qu'on a quand même affaire à deux formes de messianisme. Chez les Russes, c'est très clair, le retour impérial s'accompagne
d'une forme de mystique.
D'une forme qui est...
La Troisième Rome.
Exactement, oui. Exactement, de Troisième Rome. Et on n'est pas loin de trouver quelque chose comme ça, où certaines de ces images sont relayées notamment par Elon Musk, là aussi d'un nouvel impérialisme qui se réfère bien à Rome, et pas à la Grèce.
Oui. Régis Janté.
Oui, sur le messianisme, juste une petite phrase, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu en faisant mon livre. Bon, bien sûr, les références religieuses sont complètement instrumentalisées, etc. Mais une très bonne experte de la Russie dit que la vision de Poutine de Trump, c'est une vision justement non pas messianique, mais apocalyptique. Quoi.
Apocalyptique.
En gros, c'est l'ange de l'apocalypse. Et en fait, Trump, il a aucune sympathie pour Trump, mais il voit simplement en lui celui qui sera capable de détruire les États-Unis. Et bon, c'est juste une remarque. Il faut garder en tête, mais on retrouve un peu ces références, en effet.
Oui, c'est ça. On peut finir là-dessus, d'ailleurs, sur cette idée d'un imaginaire de l'apocalypse. C'est-à-dire que les rapports de force débouchent sur une espèce de fin du monde, vu comme une sorte d'épiphanie, en quelque sorte. C'est ce que dit Peter Thiel. Peter Thiel n'est pas très loin de ça, le grand théoricien libertarien, élève de René Girard et de Léo Strauss.
Et on trouve ça aussi notamment dans un roman qui s'appelle Moscou sur vodka,
oui.
Où on voit les quatre cavaliers de l'apocalypse régler le sort de la Russie.
Voilà, merci à tous les quatre. Merci Valérie Kokoschka. Merci Régis Janté, pardon, depuis Tbilissi. Je rappelle le titre du livre Notre homme à Washington chez Grasset. Merci Anne-Elisabeth Moutet. Et merci François Stom. Je rappelle le titre de votre blog qu'il faut lire, Des Crucy. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, François Stom n'est plus là, mais je pense que c'est ça.
Des Crucy.
Voilà. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Massé, avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.